Radio Okapi. Le journal de Linda Bosuma.
La tension monte dans les provinces en attente des nouveaux dirigeants. Téné, au sud Kivu, c'est un candidat gouverneur de moins de 30 ans qui a ouvert la campagne électorale hier à Bukavu, alors qu'au Katanga, l'affaire Kazembe, déchue par l'Assemblée provinciale et réhabilitée par la Cour constitutionnelle, n'est toujours pas décantée. Toujours pas de réaction du gouvernement congolais. Une semaine après le drame qui a coûté la vie à plusieurs personnes à Tara dans l'Ituri, plusieurs voix s'élèvent pour condamner cette attitude de Kinshasa. Et puis, la province du Tanganyika compte à ce jour plus ou moins 70 sites d'exploitation artisanale de l'or, mais pour environ 2 kilos de métal jaune seulement le mois. C'est le dossier à suivre dans la seconde partie de cette édition. Heureuse de vous retrouver, madame, messieurs, bonjour. L'actualité à travers le pays, c'est d'abord le début effectif ce mardi de la campagne électorale par les candidats gouverneurs des provinces. Commençons par le Sud Kivu. Pour la première journée, deux candidats gouverneurs se sont expliqués devant les députés provinciaux dans la salle de plénière du secrétariat exécutif provincial de la CENI Sud Kivu à la grande place de la Poste. Un reportage de Emmanuel Elamiji.
C'est le tout jeune candidat, âgé de moins de 30 ans, qui a ouvert le bal de la campagne électorale ce mardi dans la salle du secrétariat exécutif provincial de la CENI Sud Kivu, à la Grand Place de la Poste. Juste Aganze Chibembe, licencié en économie et sciences de gestion de l'Université catholique de Bukavu de 2012, ancien agent de recouvrement à la direction provincial de mobilisation de recettes et consultant en développement. Le jeune prétendant gouvernorat du Sud Kivu dit être animé par le souci du rajeunissement de l'administration publique. Son plan d'action s'étale sur la bonne gouvernance, l'éducation, la sécurité, le social, l'économie et l'environnement. Le deuxième intervenant, le candidat Gustave Bagayamuku Etadi, absent de Bukavu, il est détenu à la prison militaire d'Indolo depuis 2013. C'est son colistier Thomas Dakin Utewaso Kiamusula qui a développé le programme de son titulaire. Bagayamuku Etadi, ingénieur en électronique industrielle, ancien cadre de la RVA ainsi que de la Banque centrale du Congo. Mercredi 23 août 2017, trois autres candidats sont attendus devant les 36 députés provinciaux du Sud de Kivu. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu, Radio Okapi.
Du côté du Haut-Katanga et Olomami, à Lubumbashi, déjà les alentours du bâtiment du 30 juin sont envahis par les photos des candidats gouverneurs, dont Célestin Pande Kapopo et Pierre Lukone Mwenzeni et leurs colistiers. Et dans le Olomami, par contre, la grande ambiance électorale n'est pas encore au rendez-vous. Tous les candidats sont dans l'attente. Entre-temps, l'affaire opposant Jean-Claude Kazembe, gouverneur du Haut-Katanga, déchu par l'Assemblée provinciale et réhabilité par la Cour constitutionnelle n'est toujours pas décantée. Madeleine Waila nous en dit plus.
La province du Haut-Katanga compte deux candidats. Il s'agit de Célestin Pande Kapopo et Lukone Mwila Pierre. Le premier est sur la liste de la majorité présidentielle et l'autre était candidat indépendant. Très tôt ce mardi matin, les effigies de Pande Kapopo étaient placées devant le bâtiment du 30 juin au siège de l'Assemblée provinciale. Ce sont les photos du candidat qui sont le plus visibles et porte plusieurs messages, mais les effigies de l'autre candidat Pierre Lukone Mwila portent un seul slogan « Ensemble, tout est possible ». Il faut signaler qu'au premier jour de la campagne officielle des candidats au poste de gouverneur dans la province du Haut-Katanga, l'ambiance est encore humide. Par contre, dans la province du Olomami, trois candidats sont en course. Les deux premiers sont des indépendants et le troisième est issu de la majorité présidentielle. Des sources concordantes sur place précisent que la campagne officielle telle que prévue par le calendrier de la CENI n'a pas véritablement commencé. La session extraordinaire est convoquée pour ce jeudi. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.
Pendant ce temps, le député national Juvénal Kitungwa Lugoma, membre du G7, dénonce la politique de deux poids deux mesures dans l'application des arrêts de la Cour constitutionnelle. Pour cet élu de Lubumbashi, il est incompréhensible que la majorité présidentielle accepte le refus de la CENI d'organiser l'élection du vice-gouverneur dans la province de l'Équateur et refuse d'annuler l'élection du gouverneur et vice-gouverneur dans le Haut-Katanga. Juvénal Kitungwa au micro de Colin Djuma Musompo.
Moi, je voudrais profiter de cette opportunité pour dénoncer l'application sélective des arrêts de la Cour constitutionnelle par la mouvance présidentielle, qui d'un côté refuse d'appliquer l'arrêt qui réhabilite le gouverneur du Haut-Katanga et de l'autre côté décide de sursoir l'élection du vice-gouverneur de l'Équateur, alors que la même Cour constitutionnelle avait pris un arrêt qui réhabilitait le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Mais malgré cette réhabilitation, la CENI s'est obstinée à pouvoir organiser, c'est-à-dire les élections du gouverneur et du vice-gouverneur. Donc nous considérons que c'est vraiment déplorable, ce qui démontre par ailleurs qu'il y a une forte instrumentalisation des institutions de la République et ça ne rassure personne.
Et justement, à propos de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs en RDC, l'ONG Le Regard appelle les députés provinciaux à voter utile. Selon son coordonnateur, les députés provinciaux doivent résister à toutes les pressions politiques qui peuvent désorienter leur vote. Maître Faustin Batongo au micro d'Étienne Kalima.
Qu'ils votent pour un candidat qui a une capacité managériale susceptible de créer de nouvelles richesses au profit de la collectivité. Qu'ils évitent de voter pour un candidat qui est venu travailler en compte d'un quidam monsieur qui aura à rendre compte à ce monsieur-là, à son compte personnel ou travailler seulement au profit de la majoire. Que le député provincial doive comprendre qu'ils ont un mandat électif. Et quand on a un mandat électif, on est redevable vis-à-vis de cette population-là. Et un jour, la population aura à leur demander des comptes par rapport à ce qu'ils ont fait au sein de leurs assemblées provinciales. Nous savons tous qu'il aura des mots d'ordre, il aura des injonctions, il aura des corruptions, mais ils doivent comprendre qu'ils sont des députés provinciaux. Ils doivent chercher à travailler à leur âme et conscience et avoir d'abord la volonté de cette population-là. Parce que somme toute, la liberté des votes, la liberté d'agir, leur revient à eux, députés provinciaux.
Revenons au drame qui frappe le village de Tara dans la province de l'Ituri. Voici une semaine maintenant avec ses réactions. Le président national de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, appelle le gouvernement congolais à réagir, notamment en assistant les familles des victimes ainsi que les rescapés de ce glissement de terrain qui a coûté la vie à plusieurs habitants de cette région située au bord du lac Albert. Vital Kamerhe l'a dit hier à son arrivée à Bunia pour assister aux obsèques du député national John Tinanzabo. Écoutez Vital Kamerhe. Et au micro de Martial Kiza.
Je suis venu compatir avec tous les Ituriens, à double titre. D'abord, John Tinanzabo, et puis la catastrophe humanitaire qui a emporté plus de 40 personnes. Je pense que nous sommes devant une situation où le gouvernement a démontré ses limites. Parce que ça devient un gouvernement, un pouvoir qui ne fait que des funérailles partout. Les gens meurent, il y a des groupes armés qui tuent, et incapables de sécuriser, incapables de donner des conditions décentes, incapables de prévenir des catastrophes humanitaires. C'est regrettable. Ce que nous devons faire, c'est de dire: voici le nouveau projet, voici la nouvelle vision pour le Congo. Et ce Congo, c'est un grand pays qui peut se relever très rapidement. Et quand il va se lever, c'est non seulement les Congolais qui vont en profiter, mais tous les pays environnants et l'Afrique tout entière.
Dans le même cadre, notez ces condoléances de la part de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, adressées aux familles des victimes dans un communiqué publié hier. Nous pensons à ceux qui sont blessés et nous leur souhaitons un prompt rétablissement, lit-on dans ce document. Par ailleurs, plusieurs voix s'élèvent en Ituri pour condamner l'inactivité du gouvernement central sur le drame du village de pêche de Tara, où un glissement de terre a causé la mort de plus de 40 personnes et la disparition de plus de 100 autres. Des acteurs de la société civile, hommes politiques, en passant par des simples citoyens, tous disent ne pas comprendre ce qu'ils qualifient de silence coupable de Kinshasa face à cette catastrophe. José Deschartes Menga résume ses réactions dans ce reportage.
C'est depuis une semaine que le drame de Tara s'est produit. Un déluge de grosses pierres et de boue provoqué par une pluie torrentielle a effacé de la carte ce petit village au pied de l'immense mont bleu et au bord du lac Albert. Des images qui circulent sur la toile montrent un paysage apocalyptique. Des messages de compassion fusent de partout sur Internet. Parmi eux, des simples citoyens congolais et voire même ceux des gouvernements américains et chinois. Côté gouvernement congolais, aucun mot. Ce qui fait dire à Maître Albert Zamoundou des Forces Populaires pour la Démocratie au Congo, un parti politique dont le siège est à Bounia. Kinshasa, où es-tu quand tes fils meurent? Il condamne le silence glacial du pouvoir et se demande si ces derniers ont oublié que l'Ituri se trouve en RDC. Pour le député national Daniel Ouma, pourtant de la majorité, nous sommes en face d'un pouvoir inconscient. Ce n'est qu'hier, soit 6 jours après, qu'un communiqué du premier ministre présente ses condoléances. Entre-temps, les morts n'ont pas de sépulture digne et les rescapés continuent à souffrir dans leur chair. Bounia, José de Chartemenga, Radio Okapi.
Un autre communiqué au sujet de ce drame de Tara, c'est celui du président de la République, publié hier mardi. Joseph Kabila a adressé ses condoléances à tous les compatriotes ainsi qu'aux riverains éprouvés à la suite de ce glissement de terrain. Dans le même registre, le premier ministre Bruno Tshibala a aussi, dans son communiqué toujours hier, exprimé sa compassion envers les victimes de cette catastrophe. Le premier ministre confirme que des instructions ont été ainsi données au ministre de la Solidarité et Action Humanitaire pour prendre de toute urgence les dispositions utiles afin de venir en aide et consoler les sinistrés. Parlons enseignement à présent. La Confédération des associations des parents d'élèves des écoles conventionnées du Congo, CAPEC, soutient le mouvement de grève annoncé pour le 4 septembre prochain par l'intersyndicale des enseignants. L'ANAPECO dit comprendre les enseignants, mais leur demande de privilégier l'intérêt des enfants, surtout que les parents ont déjà payé des acomptes dans beaucoup d'écoles publiques. Des détails avec Honoré Missinga.
La CAPEC et la NAPECO reconnaissent toutes deux le principe du droit à la grève en République démocratique du Congo et la légitimité des revendications des enseignants. Mais la CAPEC va plus loin. Son porte-parole, Jean-Marie Bambessa, parle d'un réveil des enseignants que les parents doivent soutenir.
Si l'enseignant s'est réveillé aujourd'hui, nous parents, nous pouvons l'encourager pour qu'il puisse bien regarder son employeur et qu'il y ait de l'ordre.
De l'ordre également au niveau des parents eux-mêmes appelés à la vigilance vis-à-vis des chefs d'établissement scolaire.
Les parents doivent être stricts également parce que ces chefs d'établissement qui ont exigé des acomptes avant la rentrée scolaire ne sont pas autorisés à les faire.
Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Raison pour laquelle le président national de l'ANAPECO, David Steve Diatizeo, interpelle plutôt la conscience des enseignants.
Défendant la cause des parents et des élèves, nous disons que comme nous avons déjà payé des acomptes dans beaucoup d'écoles, il devrait aussi en tenir compte pour que nos enfants et nous les parents ne soyons pas pénalisés. Il y aura donc un problème de conscience parce que les parents ont payé ce qu'ils devaient payer, si pas en totalité, mais des acomptes.
Pour l'ANAPECO donc, les enseignants devraient continuer le dialogue avec le gouvernement.
Cap sur le Nord Kivu avec cet appel du porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2. La population de Niamey-Lima doit prendre son mal en patience en attendant la fin des opérations militaires, déclare le major Ndike Kaiko. En effet, pour mettre les habitants à l'abri des tirs, le commandement opérationnel Sokola 2 leur avait interdit tout accès aux champs depuis le 31 mai 2017, date de début des opérations. Mais cette décision que l'armée qualifie de conservatoire a un impact négatif sur la vie socio-économique. Certains produits vivriers deviennent rares sur le marché de Niamey-Lima, rendant encore difficiles les conditions de vie de la population, selon la société civile locale. Mais l'armée reste catégorique. La mesure ne sera levée qu'après les opérations, a dit Major Guillaume Ndjike au micro de Gisèle Cage.
Il s'agit d'une mesure conservatoire. Les opérations se déroulent dans cette zone. Après un certain temps, il y aura une évaluation. Et dès que la situation se sera stabilisée, la population pourra maintenant vaquer librement à ses occupations sans être inquiétée. D'ailleurs, la population n'a jamais été calme lorsque se retrouve de l'autre côté. Vous êtes sans oublier que c'est un terrain occupé par les groupes armés. La population est soumise au paiement des taxes illégales. Nous osons croire qu'avec cette mesure conservatoire prise par le commandement secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2, c'est pour en finir une fois pour toutes avec ceux qui mettent à mal leur quiétude. Il est vrai que tout ce que vous êtes en train d'évoquer sur le plan économique et social, mais écoutez, la sécurité d'abord de notre population. Sinon, ce serait une armée irresponsable. Nous sommes une armée loyaliste et nous sommes une armée professionnelle et nous sommes tenus à respecter les droits internationaux humanitaires et ne exposer notre population au crépitement des
Actualité Afrique Monde.
Au moins 5 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées. Parmi elles, de nombreux écoliers. C'était lorsqu'un kamikaze a déclenché sa voiture piégée près d'un quartier général de la police ce mercredi dans le sud de l'Afghanistan. Selon le directeur de l'hôpital provincial, 38 blessés ont été hospitalisés, pour la plupart des écoliers de la mosquée voisine. 2 femmes et 2 soldats comptent parmi les morts. Cet attentat revendiqué par les talibans est le premier d'ampleur depuis que le président des États-Unis, Donald Trump, a ouvert la voie lundi au déploiement des milliers de soldats américains supplémentaires en Afghanistan. Entre-temps, le premier ministre israélien a été reçu ce mercredi par le président russe Vladimir Poutine, a déclaré à ce dernier que le rôle croissant de l'Iran en Syrie représentait une menace pour Israël. Nous ne pouvons oublier une seule minute que l'Iran menace chaque jour d'anéantir Israël, a dit Benjamin Netanyahou, accusant la République islamique d'armer des organisations terroristes et de parrainer et de susciter le terrorisme. Le président égyptien Abdel Fattah va rencontrer ce mercredi le gendre et conseiller spécial de Donald Trump. Ont annoncé ses services au lendemain de la décision des États-Unis de réduire leur aide à l'Égypte. Washington a décidé d'annuler le versement de 95 millions de dollars d'aide à l'Égypte et de repousser le versement de 195 millions supplémentaires, a-t-on appris mardi des sources proches du dossier. Cette décision a été prise en raison du manque de progrès enregistré par le gouvernement du président égyptien en matière de respect des droits de l'homme et des normes démocratiques. Le ministère égyptien des Affaires étrangères a déploré mercredi cette décision, jugeant qu'elle aurait des effets négatifs sur leurs relations.